Chapitre 14. Le 16 octobre, j'appareillai seul de la rade de Batavia pour mouiller par 7 brasses et demie, fond de vase molle, environ 1 lieue en dehors. L'étoile, qui ne put avoir son pain que fort tard, appareilla à 3 heures du matin, et gouvernant sur les feux que je tins allumés toute la nuit, elle vint mouiller auprès de moi. Comme la route pour sortir de Batavia est intéressante, on me permettra le détail de celle que j'ai faite. Le 17, nous fûmes sous voile à 5 heures du matin et nous gouvernâmes au nord-car-nord-est pour passer dans l'est de Rotterdam environ à 1 demi-lieue, puis au nord-ouest-car-nord pour passer au sud de Horn et de Harlem. Ensuite, du ouest-car-nord-ouest au ouest-car-sud-ouest pour ranger au nord des îles d'Amsterdam et de Middelburg, sur la dernière desquelles est un pavillon. Puis à l'ouest, laissant à tribord une balise placée dans le sud de la petite Cambouis. À midi, nous observâmes 5 degrés 55 minutes de latitude méridionale, et nous étions pour l'or nord et sud de la pointe sud-est de la Grande Cambouis, environ à 1 mille. J'ai de là fait route pour passer entre 2 balises placées l'une au sud de la pointe nord-ouest de la Grande Cambouis, l'autre est et ouest de l'île des Anthropophages, autrement dite Pulolaki. Pour l'or, on longe la côte à la distance qu'on veut ou qu'on peut. À 5 heures et demie, le courant nous affalant sur la côte, je mouillai une ancre à jet par 11 brasses, fond de vase, la pointe nord-ouest de la baie de Bantam me restant à ouest quart nord-ouest 20 degrés ouest, environ 5 lieues, et le milieu de Pulolaki au nord-ouest 5 degrés ouest, 3 lieues. Le 18, à 2 heures du matin, nous étions à la voile, mais il nous fallut mouiller le soir. Ce ne fut que le 19 après-midi que nous sortîmes du détroit de la Sonde, passant au nord de l'île du Prince. Nous observâmes à midi 6 degrés 30 minutes de latitude australe et à 4 heures après-midi, étant environ à 4 lieues de la pointe nord-ouest de l'île du Prince, je pris mon point de départ sur la carte de Monsieur Dapray par 6 degrés 21 minutes de latitude australe et 102 degrés de longitude orientale du méridien de Paris. Au reste, on peut mouiller partout le long de l'île de Java. Les Hollandais y entretiennent de petits postes de distance en distance et chacun d'eux a ordre d'envoyer un soldat à bord des vaisseaux qui passent avec un registre sur lequel on prie d'inscrire le nom du vaisseau, d'où il vient et où il va. On met ce qu'on veut sur ce registre, mais je suis fort éloigné d'en blâmer l'usage, puisque par ce moyen, on peut avoir des nouvelles de bâtiments dont souvent on est inquiet, et que d'ailleurs le soldat chargé de présenter ce registre apporte aussi des poules, des tortues et d'autres rafraîchissements qu'il vend à fort bon compte. Il n'y avait plus de scorbut, au moins apparent, à bord de mes vaisseaux, mais beaucoup de gens y étaient attaqués du flux de sang. Je pris donc le parti de faire route pour l'île de France, sans attendre l'étoile, et je lui en fis le signal le 20. Cette route n'eut rien de remarquable que le beau et bon temps qui l'a rendue fort courte. Nous eûmes constamment le vent de sud-est très frais, nous en avions besoin, car le nombre des malades augmentait chaque jour. Les convalescences étaient fort longues, et ils se joignaient au flux de sang des fièvres chaudes. Un de mes charpentiers en mourut la nuit du 30 au 31. Ma mâture me causait aussi beaucoup d'inquiétude. Il y avait lieu d'appréhender que le grand mât ne rompît 5 ou 6 pieds au-dessous du trélingage. Je le fis jumeler, et pour le soulager, je dégréai le mât de perroquet et tins toujours 2 ris dans le grand hunier. Ces précautions retardaient considérablement notre marche. Malgré cela, le 18e jour de notre sortie de Batavia, nous eûmes la vue de l'île Rodrigue et le surlendemain celle de l'île de France. Le 5 novembre, à 4 heures du soir, nous étions nord et sud de la pointe nord-est de l'île Rodrigue. Nous avions eu connaissance de l'île Ronde le 7 à midi. À 5 heures du soir, nous étions nord et sud de son milieu. Nous tirâmes du canon à l'entrée de la nuit, espérant qu'on allumerait le feu de la pointe au canonnier. Mais ce feu, mentionné par M. Dapray dans son instruction, ne s'allume plus, de manière qu'après avoir doublé le coin de mire, qu'on peut ranger d'aussi près qu'on veut, je me trouvais fort embarrassé pour éviter la batture dangereuse qui avance plus d'une demi-lieue au large de la pointe au canonnier. Je louvoyais, afin de m'entretenir au vent du port, tirant de temps en temps un coup de canon. Enfin, entre 11 heures et minuit, il vint à bord un des pilotes du port entretenu par le roi. Je me croyais hors de peine, et je lui avais remis la conduite du bâtiment lorsqu'à 3 heures et demie, il nous échoua, près de la baie des tombeaux. Par bonheur, il n'y avait pas de mer, et la manœuvre que nous fîmes rapidement pour tâcher d'abattre du côté du large nous réussit. Mais que l'on conçoive quelle douleur mortelle c'eût été pour nous, après tant de dangers nécessaires heureusement évités, de venir échouer au port par la faute d'un ignorant auquel l'ordonnance nous forçait de nous livrer. Nous en fûmes quittes pour 45 pieds de notre fausse quille qui furent emportées. le 8, dans la matinée, nous entrâmes dans le port où nous fûmes amarrés dans la journée. L'étoile parut à 6 heures du soir et ne put entrer que le lendemain. Nous nous trouvâmes être en arrière d'un jour, et nous y reprîmes la date de tout le monde. Dès le premier jour, j'envoyai tous mes malades à l'hôpital, je donnai l'état de mes besoins en vivres et à gré, et nous travaillâmes sur le champ à disposer la frégate pour être carénée. Je pris tous les ouvriers du port qu'on put me donner, et tous ceux de l'étoile, étant déterminés à partir aussitôt que je serai prêt. Le 16 et le 18, on chauffa la frégate. Nous trouvâmes son doublage vermoulu, mais son flambord était aussi sain qu'en sortant du chantier. Nous fûmes obligés de changer ici une partie de notre mâture. Notre grand-mât avait un menton au pied et devait manquer par là aussitôt que par la tête où la mèche était cassée. On me donna un grand-mât d'une seule pièce, 2 mâts de une, des ancres, des câbles et du filin dont nous étions absolument indigents. Je remis dans les magasins du roi mes vieux vivres et j'en repris pour 5 mois. Je livrai pareillement à M. Poivre, intendant de l'île de France, le fer et les clous embarqués à bord de l'étoile, ma cucurbite, ma ventouse, beaucoup de médicaments et quantité d'effets devenus inutiles pour nous et dont cette colonie avait besoin. Je donnai aussi à la Légion 23 soldats qui me demandèrent à y être incorporés. Messieurs de Commerçon et Véron consentirent pareillement à différer leur retour en France, le premier pour examiner l'histoire naturelle de ces îles et celle de Madagascar, le second pour être à portée d'aller observer dans l'Inde le passage de Vénus. On me demanda de plus M. de Romainville, ingénieur, et quelques jeunes volontaires et pilotins pour la navigation d'Inde en Inde. Il n'était pas malheureux, après un aussi long voyage, d'être encore en état d'enrichir cette colonie d'hommes et d'effets nécessaires. La joie que j'en ressentis fut cruellement altérée par la perte que nous y fîmes du chevalier du Bouchage, enseigne de vaisseau, sujet d'un mérite distingué, qui joignait aux connaissances qui font le grand officier de mer toutes les qualités du cœur et de l'esprit qui rendent un homme précieux à ses amis. Les soins affectueux et l'habileté de M. de la Porte, notre chirurgien-major, n'ont pu le sauver. Il mourut dans mes bras le 17 novembre d'une dysenterie commencée à Batavia. Peu de jours après, un jeune fils de M. le Moine, commissaire ordonnateur de la marine, embarqué avec moi volontaire et nommé depuis peu garde de la marine, mourut de la poitrine. J'admirais, à l'île de France, les forges qui y ont été établies par messieurs de Rostin et Hermann. Il en est peu d'aussi belles en Europe, et le fer qu'elles fabriquent est de la première qualité. On ne conçoit pas ce qu'il a fallu de constance et d'habileté pour perfectionner cet établissement, et ce qu'il a coûté de frais. Il y a maintenant 900 nègres, dont M. Hermann fait exercer un bataillon de 200 hommes, parmi lesquels s'est établi l'esprit de corps. Ils sont entre eux fort délicats sur le choix de leurs camarades et refusent d'admettre tous ceux qui ont commis la moindre friponnerie. Comment se peut-il que le point d'honneur se trouve avec l'esclavage ? Pendant notre séjour ici, nous avions constamment joui du plus beau temps. Le 5 décembre, le ciel commença à se couvrir de gros nuages, les montagnes s'embrumèrent. Tout annonça la saison des pluies et l'approche de l'ouragan qui se fait sentir dans ces îles presque toutes les années. Le 10, j'étais prêt à mettre à la voile. La pluie et le vent debout ne me le permirent pas. Je ne pus appareiller que le 12 au matin, laissant l'étoile au moment d'être carénée. Ce bâtiment ne pouvait être en état de sortir avant la fin du mois, et notre jonction était dorénavant inutile. Cette flûte, sortie de l'île de France à la fin du mois de décembre, est arrivée en France 1 mois après moi. À midi, je pris mon point de départ par la latitude australe observée de 20 degrés 22 minutes et par 54 degrés 40 minutes de longitude à l'est de Paris. Le temps fut d'abord très couvert, avec des grains et de la pluie. Nous ne pûmes avoir connaissance de l'île de Bourbon. À mesure que nous nous éloignâmes, le temps devint plus beau, le vent était favorable et frais, mais bientôt notre nouveau grand-mât nous causa les mêmes inquiétudes que le premier. Il faisait à la tête un arc si considérable que je n'osais me servir du grand perroquet ni porter le hunier tout haut. Depuis le 22 décembre jusqu'au 8 janvier, nous eûmes constamment vent debout, mauvais temps ou calme. Ces vents d'ouest étaient, me disait-on, sans exemple ici dans cette saison. Ils ne nous en molestèrent pas moins 15 jours de suite que nous passâmes à la Cape ou à Louvoyer avec une très grosse mer. Nous eûmes la connaissance de la côte d'Afrique avant que d'avoir eu la sonde. Lors de la vue de cette terre que nous prîmes pour le cap des Basses, nous n'avions pas de fond. Le 30, nous trouvâmes 78 brasses, et depuis ce jour nous nous entretînmes sur le banc des aiguilles avec la vue presque continuelle de la côte. Bientôt, nous rencontrâmes plusieurs navires hollandais de la flotte de Batavia. L'avant-coureur en était parti le 20 octobre et la flotte le 26 novembre. Les Hollandais étaient encore plus surpris que nous de ces vents d'ouest qui soufflaient ainsi contre saison. Enfin, le 8 janvier au matin, nous eûmes connaissance du Cap False et bientôt après, la vue des terres du Cap de Bonne-Espérance. J'observai qu'à 5 lieues dans l'est-sud-est du Cap False, il y a une roche sous l'eau fort dangereuse, qu'à l'est du Cap de Bonne-Espérance est un récif qui s'avance plus d'un tiers de lieue au large, et au pied du cap même un rocher qui met au large à la même distance. J'avais atteint un vaisseau hollandais aperçu le matin, et j'avais diminué de voile pour ne pas le dépasser, afin de le suivre en cas qu'il voulût entrer de nuit. À 7 heures du soir, il amena perroquet, bonnette et même ses huniers. Pour l'heure, je pris le bord du large, et je louvoyais toute la nuit avec un grand frais de vent de sud, variable de sud-sud-est au sud-sud-ouest. Au point du jour, les courants nous avaient entraînés de près de 9 lieues dans l'ouest-nord-ouest. Le vaisseau hollandais était à plus de 4 lieues sous le vent à nous. Il fallut forcer le voile pour regagner ce que nous avions perdu. À 9 heures du matin, nous mouillâmes dans la baie du Cap, à la tête de la rade. Il y avait ici 14 grands navires de toutes nations, et il en arriva plusieurs autres pendant le séjour que nous y fîmes. M. Carteret en était sorti le jour des rois. Nous saluâmes de 15 coups de canon la ville, qui nous en rendit un pareil nombre. Nous eûmes tout lieu de nous louer du gouverneur et des habitants du Cap de Bonne-Espérance. Ils s'empressèrent de nous procurer l'utile et l'agréable. Je ne m'arrêterai point à décrire cette place que tout le monde connaît. Le Cap relève immédiatement de l'Europe et n'est point dans la dépendance de Batavia, ni pour l'administration militaire et civile, ni pour la nomination des emplois. Il suffit même d'en avoir exercé un au Cap pour n'en pouvoir posséder aucun à Batavia. Cependant, le conseil du Cap correspond avec celui de Batavia pour les affaires de commerce. Il est composé de 8 personnes, du nombre desquelles est le gouverneur qui en est le président. Le gouverneur n'entre point dans le conseil de justice auquel préside le commandant en second, seulement il signe les arrêts de mort. Il y a un poste militaire à False Bay et un à la baie de Saldanha. Cette dernière, qui forme un port superbe à l'abri de tous les vents, n'a pu devenir le chef-lieu parce qu'il n'y a pas d'eau. On travaille maintenant à augmenter l'établissement de False Bay. C'est tous les vaisseaux mouillent pendant l'hiver, quand la baie du Cap est interdite. On y trouve les mêmes secours et à tout aussi bon compte qu'au Cap. Il y a par terre 8 lieues de mauvais chemin, d'un de ces lieux à l'autre. À peu près à moitié chemin des deux est le canton de Constance, qui produit le fameux vin de ce nom. Ce vignoble, où l'on cultive des plants de muscat d'Espagne, est fort petit. Mais il est faux qu'il appartienne à la compagnie et qu'il soit, comme on le croit ici, entouré de murs et gardé. On le distingue en Haut-Constance et Petite-Constance, séparés par une haie et appartenant à 2 propriétaires différents. Le vin qui s'y recueille est à peu près égal en qualité, quoique chacun des 2 Constances ait ses partisans. Il se fait, année commune, 120 à 130 barriques de ce vin, dont la compagnie prend un tiers à un prix tarifé, le reste se vend aux acheteurs qui se présentent. Le prix actuel est de 30 piastres l'alvram ou le baril de 70 bouteilles de vin blanc, 35 piastres l'alvram de rouge. Mes camarades et moi nous allâmes dîner chez M. de Van der Spie, propriétaire du Haut-Constance. Il nous fit la meilleure chère du monde, et nous y bûmes beaucoup de son vin, soit en dînant, soit en goûtant des différentes pièces pour faire notre emplette. Les plantations des Hollandais se sont fort étendues sur toute la côte, et l'abondance y est partout le fruit de la culture, parce que le cultivateur, soumis aux seules lois, y est libre et sûr de sa propriété. Il y a des habitants jusqu'à près de 150 lieues de la capitale. Ils n'ont d'ennemis à craindre que les bêtes féroces, car les Hottentots ne les molestent point. Une des plus belles parties de la colonie du Cap est celle à laquelle on a donné le nom de Petite Rochelle. C'est une peuplade de Français chassés de leur patrie par la révocation de l'édit de Nantes. Elle surpasse toutes les autres par la fécondité du terrain et l'industrie des colons. Ils ont conservé à cette mère adoptive le nom de leur ancienne patrie, qu'ils aiment toujours, toute rigoureuse qu'elle leur a été. Le gouvernement envoie de temps en temps des caravanes visiter l'intérieur du pays. Il s'en est fait une de 8 mois en 1763. Le détachement perça dans le nord et fit, m'a-t-on assuré, des découvertes importantes. Ce voyage n'eut pas cependant le succès qu'on devait s'en promettre. Le mécontentement et la discorde se mirent dans le détachement et forcèrent le chef à revenir sur ses pas, laissant ses découvertes imparfaites. Les Hollandais avaient eu connaissance d'une nation jaune, dont les cheveux sont longs, et qui leur apparut très farouche. C'est dans ce voyage que l'on a trouvé le quadrupède de 17 pieds de hauteur dont j'ai remis le dessin à M. de Buffon. C'était une femelle qui allaitait un faon dont la hauteur n'était encore que de 7 pieds. On tua la mère, le faon fut pris vivant, mais il mourut après quelques jours de marche. M. de Buffon m'a assuré que cet animal est celui que les naturalistes nomment la girafe. On n'en avait pas revu depuis celui qui fut apporté à Rome du temps de César et montré à l'amphithéâtre. On a aussi trouvé, il y a 3 ans, et apporté au cap où il n'a vécu que 2 mois, un quadrupède d'une grande beauté, lequel tient du taureau, du cheval et du cerf, et dont le genre est absolument nouveau. J'ai pareillement remis à M. de Buffon le dessin exact de cet animal, dont je crois que la force et la vitesse égalent la beauté. Ce n'est pas sans raison que l'Afrique a été nommée la mer des monstres. Munis de bons vivres, de vins et de rafraîchissements de toute espèce, nous appareillâmes de la rade du Cap le 17 après-midi. Nous passâmes entre l'île Robben et la côte à 6 heures du soir. Le milieu de cette île nous restait au sud-sud-est 4 degrés sud, environ à 4 lieues de distance. C'est d'où je pris mon point de départ par 43 degrés 40 minutes de latitude sud et 15 degrés 48 minutes de longitude orientale de Paris. Je désirais rejoindre M. Carteret, sur lequel j'avais certainement un grand avantage de marche, mais qui avait encore 11 jours d'avance sur moi. Je dirigeais ma route pour prendre connaissance de l'île Sainte-Hélène, afin de m'assurer la relâche à l'ascension, relâche qui devait faire le salut de mon équipage. Effectivement, nous en eûmes la vue le 29 à 2 heures après-midi, et le relèvement que nous en fîmes ne nous donna de différence avec l'estime de notre route que 8 à 10 lieues. La nuit du 3 au 4 février, étant par la latitude de l'ascension, et m'en faisant environ à 18 lieues de distance, je fis courir sous les 2 huniers. Au point du jour, nous vîmes l'île à peu près à 9 lieues de distance, et à 11 heures nous mouillâmes dans l'anse du nord-ouest ou de la montagne de la Croix par 12 brasses, fond de sable de corail. Suivant les observations de M. l'abbé de la Caille, nous étions à ce mouillage par 7 degrés 54 minutes de latitude sud et 16 degrés 19 minutes de longitude occidentale de Paris. À peine eûmes-nous jeté l'ancre que je fis mettre les bateaux à la mer et partir 3 détachements pour la pêche de la tortue. Le premier dans l'anse du nord-est, le second dans l'anse du nord-ouest vis-à-vis de laquelle nous étions, le troisième dans l'anse aux Anglais, laquelle est dans le sud-ouest de l'île. Tout nous promettait une pêche favorable. Il n'y avait point d'autre navire que le nôtre, la saison était avantageuse et nous entrions en nouvelle lune. Aussitôt après le départ des détachements, je fis toutes mes dispositions pour jumeler, au-dessous du cap-plage, mes 2 mâts majeurs, savoir le grand mât avec un petit mât de hune, le gros bout en haut, et le mât de misaine, lequel était fendu horizontalement entre les jottereaux avec une jumelle de chêne. On m'apporta dans l'après-midi la bouteille qui renferme le papier sur lequel s'inscrivent ordinairement les vaisseaux de toute nation qui relâchent à l'ascension. Cette bouteille se dépose dans la cavité d'un des rochers de cette baie, où elle est également à l'abri des vagues et de la pluie. J'y trouvais écrit le Swallow, ce vaisseau anglais commandé par M. Carteret que je désirais de rejoindre. Il était arrivé ici le 31 janvier et reparti le 1er février. C'était déjà 6 jours que nous lui avions gagné depuis le cap de Bonne-Espérance. J'inscrivis la boudeuse et je renvoyai la bouteille. La journée du 5 se passa à jumeler nos mâts sous le cap-plage, opération délicate dans une rade où la mer est clapoteuse, à tenir nos agrès et à embarquer les tortues. La pêche fut abondante. On en avait chaviré dans la nuit 70, mais nous ne pûmes en prendre à bord que 56, on remit les autres en liberté. Nous observâmes au mouillage 9 degrés 45 minutes de variation nord-ouest. Le 6, à 3 heures du matin, les tortues et bateaux étaient embarqués. Nous commençâmes à lever nos ancres. À 5 heures, nous étions sous voile, enchantés de notre pêche et de l'espoir que notre mouillage serait dorénavant dans notre patrie. Combien nous en avions fait depuis le départ de Brest. En partant de l'ascension, je tins le vent pour ranger les îles du Cap-Vert d'aussi près qu'il me serait possible. Le 11 au matin, nous passâmes la ligne pour la 6e fois dans ce voyage, par 20 degrés de longitude estimée. Quelques jours après, comme malgré la jumelle dont nous l'avions fortifiée, le mât de misaine faisait une très mauvaise figure, il fallut le soutenir par des pataras, dégréer le petit perroquet et tenir presque toujours le petit hunier au baris et même serré. Le 25 au soir, on aperçut un navire au vent et de l'avant à nous. Nous le conservâmes pendant la nuit et le lendemain nous le joignîmes. C'était le Swallow. J'offris à M. Carteret tous les services qu'on peut se rendre à la mer. Il n'avait besoin de rien. Mais sur ce qu'il me dit qu'on lui avait remis au cap des lettres pour France, j'envoyai les chercher à son bord. Il me fit présent d'une flèche qu'il avait eue dans une des îles rencontrées dans son voyage autour du monde, voyage qu'il fut bien loin de nous soupçonner d'avoir fait. Son navire était fort petit, marchait très mal, et quand nous eûmes pris congé de lui, nous le laissâmes comme à l'ancre. Combien il a dû souffrir dans une aussi mauvaise embarcation! Il y avait 8 lieues de différence entre sa longitude estimée et la nôtre. Il se faisait plus à l'ouest de cette quantité. Nous comptions passer dans l'est des îles Açores lorsque le 4 mars, dans la matinée, nous eûmes connaissance des îles Tercères que nous doublâmes dans la journée en la rangeant de fort près. Nous eûmes fond le 13 après-midi et le 14 au matin, la vue d'Ouessant. Comme les vents étaient courts et la marée contraire pour doubler cette île, nous fûmes forcés de prendre la bordée du large. Les vents étaient à l'ouest grand frais et la mer fort grosse. Environ à 10 heures du matin, dans un grain violent, la vergue de misaine se rompit entre les deux poulies de drisse et la grand-voile fut au même instant déralinguée depuis un point jusqu'à l'autre. Nous mîmes aussitôt à la cape sous la grand-voile d'été, le petit foc et le foc de derrière, et nous travaillâmes à nous raccommoder. Nous envergâmes une grande voile neuve, nous refîmes une vergue de misaine avec la vergue d'artimon, une vergue de grand hunier et un bout hors de bonnette, et à 4 heures du soir, nous nous retrouvâmes en état de faire de la voile. Nous avions perdu la vue d'Ouessant, et pendant la cape, le vent et la mer nous avaient fait dériver dans la Manche. Déterminé à entrer à Brest, j'avais pris le parti de louvoyer avec des vents variables du sud-ouest au nord-ouest, lorsque le 15 au matin, on vint m'avertir que le mât de misaine menaçait de se rompre au-dessous du cap-Lage. La secousse qu'il avait reçue dans la rupture de sa vergue avait augmenté son mal, et quoique nous en eussions soulagé la tête en abaissant sa vergue, faisant le ris dans la misaine et tenant le petit hunier sur le ton avec tous ses ris faits, cependant nous reconnûmes après un examen attentif que ce mât ne résisterait pas longtemps au tangage que la grosse mer nous faisait éprouver au plus près. D'ailleurs, toutes nos manœuvres et poulies étaient pourries, et nous n'avions plus de rechange. Quel moyen, dans un état pareil, de combattre entre deux côtes contre le gros temps de l'équinoxe! Je pris donc le parti de faire vent arrière et de conduire la frégate à Saint-Malo. C'était alors le port le plus prochain qui pût nous servir d'asile. J'y entrai le 16 après-midi, n'ayant perdu que 7 hommes pendant 2 ans et 4 mois écoulés depuis notre sortie de Nantes. Nota. Sur 120 hommes dont était composé l'équipage de M. de la Giraudet, il n'en a perdu que 2 de maladie pendant le voyage. Il est rentré en France le 14 avril, un mois juste après nous. Ainsi s'achève le récit « Voyage autour du monde » de Louis-Antoine de Bougainville, lu par Damien en juillet et septembre 2007 pour le site Littérature Audio. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le site.